La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec Info RC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives et l'éducation nationale.
Bonjour à tous, je suis Hugo et je suis avec Angéline Petit, sexothérapeute psychocorporelle. Bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, nous allons parler des addictions sexuelles, mais pour commencer, qui êtes-vous ?
Alors, je m'appelle Angéline Petit, je suis sexothérapeute en Sud-Ardèche. J'ai à cœur de remettre de l'amour au centre des relations humaines et sexuelles. Et pour ce faire, je m'appuie sur 15 ans d'accompagnement psychocorporel.
C'est quoi une addiction sexuelle ?
Alors, commençons déjà par définir l'addiction. Le terme addiction vient du latin addicere, qui signifie être assujetti à. Ça vient aussi d'addictus, qu'on pourrait traduire par contrainte par le corps ou esclave pour dette. L'addiction est un trouble neurologique qui affecte le circuit cérébral de la récompense. Cherchant à nouveau le plaisir procuré par le comportement, le cerveau va orchestrer la répétition de la consommation en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Au fur et à mesure de l'usage, le corps s'habitue aux effets et a besoin d'une dose plus importante pour renouveler le plaisir initial. Ce phénomène est appelé accoutumance ou tolérance. Les symptômes de l'addiction comportementale sont les mêmes qu'une addiction à un produit, car elles engendrent les mêmes modifications cérébrales. Donc une addiction sexuelle, c'est ce mécanisme d'addiction, mais qui est porté vers les comportements en lien avec la sexualité.
Pouvez-vous nous parler des différentes formes d'addiction sexuelle ?
Oui, alors il en existe différentes formes, même s'il y en a une principale. On va parler de masturbation excessive, hein, savoir la masturbation, c'est pas un problème, mais c'est quand elle va se faire de manière compulsive et trop souvent. Il y a tout ce qui concerne le cybersexe. Alors c'est visionner des supports pornographiques, utiliser des téléphones ou chats sexuels. La recherche en ligne de partenaires aussi entre dans cette classification. Mais aussi tout ce qui va être les jeux de rôle virtuels sexuels. À ça va se rajouter la fréquentation excessive de clubs spécialisés, d'escortes et de prostituées. Et comme je vous disais, la plus fréquente, c'est la pornodépendance. Les autres addictions sexuelles en sont une déclinaison. C'est pourquoi je vais me centrer mon propos sur elle. Étymologiquement, la pornographie, c'est la prostitution filmée. Avant l'industrie du porno, on utilisait des photos dans des magazines, ce qui limitait son usage. Aujourd'hui, avec Internet et les téléphones portables, les supports pornographiques se sont diversifiés. Aux images se rajoutent les vidéos, les nudes, les sites d'escorting et de rencontres, dont certains font usage uniquement pour avoir du sexe.
Et est-ce qu'il y a un âge pour devenir addict ?
Alors en fait, dès l'instant où nous sommes exposés, nous pouvons prendre le risque d'être addict. Donc l'addiction, elle peut commencer dès 7-8 ans.
Et c'est qui peut être touché par ces addictions ?
Toute personne ayant un cerveau, homme, femme, enfant, adolescent, ces derniers sont encore plus vulnérables à l'addiction sexuelle car le néocortex, qui va agir comme un frein pour réguler les pulsions, il n'est pas encore mature. Visionner du porno à cet âge, c'est comme mettre un enfant au volant d'une Ferrari sans frein. C'est pour ça que c'est interdit aux mineurs, car un enfant ne peut pas lutter contre une drogue. Malheureusement, c'est l'âge auquel toutes et tous y sont exposés et les études montrent que plus une consommation est précoce, plus le risque d'addiction augmente. C'est l'âge auquel toutes et toutes sont exposées. Et les études montrent que plus une consommation est précoce, plus le risque d'addiction augmente. Et c'est ça le piège de l'addiction, c'est qu'on ne se voit pas glisser dedans. Hein. Au début, on le fait pour se sentir bien, et ensuite, on se sent mal quand on ne le fait pas.
Quels sont les différents facteurs pour être addict ?
Alors, bien qu'il soit difficile de connaître en amont la vulnérabilité d'une personne face à une addiction, on retrouve des facteurs y prédisposant. Ainsi, les individus de sexe masculin seraient davantage enclins aux addictions. Une vulnérabilité génétique, une fragilité psychique ou la présence de traumatismes participeraient également au terrain prédisposant. Les personnes anxieuses ou au caractère introverti ou encore avec une tendance dépressive ont un risque accru de dépendance, tout comme celles avides de sensations fortes. Viennent se rajouter des facteurs environnementaux comme la facilité d'accès aux produits, l'exemple de l'entourage familial ou culturel. L'association à un lieu dans lequel la consommation s'est faite, l'isolement, le fantasme, l'anonymat et le faible coût sont aussi mentionnés.
Et comment on sait si on est addict ?
Alors on est addict quand on perd la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire quand l'usage n'est plus récréatif, mais quand on se sent en manque si on ne le fait pas. Et on va la repérer grâce aux 5 C. La perte de contrôle, l'envie irrésistible de consommer. On a des compulsions, hein, c'est plus fort que nous. C'est un usage qui est continu et qui entraîne des conséquences négatives.
Et est-ce que certains comportements peuvent être dangereux ?
Toutes les addictions ont des conséquences négatives, donc quelque part sont dangereuses. L'addiction sexuelle, elle nuit à l'estime de soi et elle conduit à l'isolement. La pornodépendance est une drogue dure qui a des effets psychiques et physiques. Ne plus avoir d'imaginaire personnel peut causer des troubles de l'érection, tout comme la masturbation excessive peut créer des lésions cutanées sur les organes génitaux.
Et quels sont les autres problèmes mentaux ou physiques qui peuvent être identifiés ?
Quand on regarde ces images, notre tête nous dit que c'est pas bien, notre cœur ressent des émotions, des fois de dégoût, de gêne, mais notre corps, lui, il ressent du plaisir. Et le mélange entre ces sensations très agréables et la gêne fait disjoncter intérieurement, ce qui entraîne une dissociation entre la tête, le cœur et le corps. Et alors on va ressentir deux émotions négatives, la culpabilité et la honte. Car on sait bien quand on est enfant qu'on fait une bêtise, mais on n'ose pas en parler autour de soi, de peur que les autres penseraient, qu'est-ce qu'ils penseraient de nous s'ils apprenaient qu'on regarde ça ? Alors on s'enferme dans le silence. Et le porno, il agit aussi comme un shoot de dopamine, qui nous détourne d'autres activités qui donnent moins de sensations plaisantes. Et le phénomène d'accoutumance fait qu'on y passe de plus en plus de temps, ce qui finit par nous isoler socialement. Ce temps passé à chercher et à consommer empiète sur les autres activités et les besoins vitaux tels que le sommeil. Se sentant moins bien, on va retourner consommer pour avoir du bien-être. Mais les récepteurs naturels des hormones du bien-être deviennent eux aussi moins sensibles. Et la production naturelle d'endorphines diminue. En gros, on s'habitue à ce qu'on regarde, donc on a plus besoin d'en regarder. Et en même temps, notre corps arrête de produire ces molécules de bien-être, ce qui nous pousse à avoir besoin encore d'en regarder. C'est un cercle vicieux. Comme je disais tout à l'heure, un piège dans lequel on ne se voit pas tomber. Notons aussi qu'à cause de la tolérance, les consommateurs sont amenés à regarder des scènes de plus en plus hardes pour retrouver l'effet initial. Finalement, ils se retrouvent à visionner des contenus qui les auraient initialement rebutés, augmentant leur sensation de malaise et diminuant leur estime de soi. C'est pour ça qu'il y a des conséquences psychologiques. Parce qu'en effet, jouir devant des contenus dégradants, n'aide pas à se sentir une belle personne.
Et c'est quoi les conséquences pour une personne qui est en couple ?
Alors il y en a de nombreuses. Déjà parce que le porno va prendre la place de l'imaginaire naturel, ce qui peut à terme engendrer des troubles de la libido et rendre la sexualité normale moins excitante, comparé au shoot d'hormones du porno conçu, je le rappelle, pour générer une forte excitation. Il s'appuie aussi sur des fantasmes, mais le propre du fantasme c'est de rester dans l'imaginaire. Et en faisant tout ce qu'on voit, sans cœur, on finit par se lasser. Sans imaginaire personnel, c'est-à-dire sans caresse cérébrale, il n'y a pas de désir. Ce qui peut aussi entraîner des difficultés d'érection. Cette représentation et la construction erronée de la sexualité et de ce qu'aiment les femmes va aussi créer un fossé entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ces images véhiculées font croire que les femmes aiment une forme de violence sexuelle. Ainsi, les consommateurs et consommatrices reproduisent inconsciemment ce qu'ils voient, notamment via les neurones miroirs, pensant faire du bien. Et en cela, le porno il va pervertir les esprits, faisant passer pour agréable quelque chose qui peut être désagréable. Car rappelons-le, c'est du cinéma. Les femmes ne simulent, elles ne jouissent pas. Ces films vont aussi entraîner des difficultés de connexion émotionnelle, car ils enseignent que le sexe est un produit de consommation. Le porno, c'est avant tout un support à masturbation. Il n'apprend pas comment faire l'amour. Et faire l'amour, c'est créer de l'amour en soi et autour de soi. C'est pas se masturber avec le corps d'un ou d'une autre. La plupart du temps, les concubines, elles le vivent comme une infidélité. Et elles n'ont pas complètement tort, parce que le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et le virtuel, alors que le plaisir, lui, il est bien là. Et enfin, il est souvent utilisé pendant le célibat. Et on se dit, quand je serai en couple, j'arrêterai. Mais justement, c'est la consommation de porno qui empêche d'être en couple. Car il enseigne des pratiques qui ne permettent ni la connexion, ni le lien entre les êtres. Or, une relation sexuelle, c'est avant tout une relation. Quand on est soi-même coupé de son cœur, de son corps ou de sa tête, on ne peut pas être en lien avec l'autre.
Et est-ce que les substances ou l'alcool peuvent aggraver le problème ?
Alors, la prise de stupéfiants, c'est un moyen de se dissocier. Avoir du sexe en étant sous-produit, ce qu'on appelle chemsex, c'est dangereux, car le consentement nécessite une pleine conscience, il nécessite d'être pleinement conscient et éclairé. Or, l'esprit, il ne peut pas être lucide sous l'effet de psychotropes, et le corps, il va au-delà de ses limites. Le cœur et l'esprit n'étant plus là, ils ne remplissent plus leur fonction de gardien du temple, ce qui peut générer des abus et des traumas. Et on va voir que le trauma, lui, peut entraîner des addictions. Donc c'est pas la consommation du produit qui aggrave, mais c'est l'usage de produits qui peut amener à en reconsommer.
Mais du coup, est-ce qu'on peut dire qu'une addiction peut en engendrer une autre ?
Alors l'addiction, elle s'aggrave avec le temps. C'est pour ça qu'elle va prendre d'autres formes, car les images sont tellement obsédantes que les consommateurs vont vouloir les vivre avec une vraie femme et vont avoir des relations tarifées. C'est ce qu'on voyait sous les autres formes de la manifestation d'addiction sexuelle. C'est un passage à l'acte dans le réel.
Et comment savoir quand demander de l'aide ?
Eh bien, quand vous combinez les 5 C, c'est-à-dire quand la compulsion à consommer est continue et qu'elle vous fait perdre le contrôle et entraîne des conséquences négatives. N'attendez pas, car cela s'aggrave avec le temps et les lésions cérébrales, qui sont visibles à l'IRM, sont irréversibles.
Est-ce qu'il y a des traitements et solutions possibles ?
Comme je vous disais, bien souvent, l'addiction, quelle qu'elle soit, elle va cacher un trauma. Voir un film X quand on est enfant peut être traumatisant. On ne le sait pas, mais le traumatisme, il pousse à reproduire le comportement traumatisant. C'est contre-intuitif, mais c'est un mécanisme neurologique pour s'anesthésier et se dissocier. Pour l'instant, il n'existe pas de traitement, mais des recherches sont en cours avec la psilocybine qui donne de bons résultats contre l'alcoolisme. En attendant, il faut trouver quelqu'un à qui en parler, idéalement une personne formée en addictologie ou en résolution de trauma. Car supprimer l'addiction sans résoudre la cause initiale revient à enlever le pansement sans enlever l'épine. Je vous recommande des groupes de parole comme le DASA, qui est donc un groupe de dépendants affectifs et sexuels anonymes. C'est une fraternité de femmes et d'hommes qui se rétablissent de la dépendance affective et sexuelle.
Et est-ce qu'une addiction, elle peut revenir ?
Oui, le craving, c'est-à-dire l'envie irrésistible de consommer, peut survenir pendant des années après un sevrage, car l'addiction entraîne des modifications cérébrales irréversibles qui sont visibles post-mortem.
Est-ce que le tabou autour des addictions sexuelles est un problème pour vous ?
Oui, d'autant plus que l'addiction à la pornographie va cumuler deux tabous, celui de la masturbation et celui de regarder des contenus sensibles. Ce sont des sujets intimes pour lesquels les gens ont de la pudeur, notamment parce qu'ils ressentent de la honte et de la culpabilité. Pourtant, si un adulte faisait prendre de la drogue à un enfant, on n'en voudrait pas à l'enfant. Voir des contenus pornographiques avant 18 ans, c'est être victime d'une industrie qui vous expose sciemment très tôt pour vous rendre addict. Mes recherches lors de mon mémoire de sexothérapie m'ont montré que toutes celles et ceux qui en consomment à l'âge adulte y ont été soit exposés bien avant leur majorité, soit ont subi des violences sexuelles. Donc pour moi, exposer un enfant à des violences sexuelles filmées, c'est un viol psychique. Sa non-reconnaissance dans le DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ne favorise pas son dépistage et peu de professionnels de la santé y sont formés, ce que je déplore.
Et comment accompagnez-vous les personnes qui sont touchées ?
Déjà, je les écoute sans les juger, car bien souvent, je suis la première personne à qui elles osent en parler. Je leur explique qu'ils ont été pris au piège par des industriels sans scrupules, utilisant le mécanisme naturel et biologique de la reproduction pour laquelle nous sommes toutes et tous programmés pour se faire de l'argent. Qu'elles n'ont pas à avoir honte, que c'est normal d'être excité, de ressentir du plaisir en regardant ces contenus, car ils sont faits pour ça, et qu'il n'y a pas de mal à ressentir ce merveilleux plaisir qu'est l'excitation sexuelle. Je les déculpabilise aussi, leur expliquant que c'est pas de leur faute. Les lois, les représentants, ainsi que leurs parents auraient dû les protéger. Je m'assure que ce comportement ne cache pas d'autres traumatismes, puis nous explorons d'autres sources de satisfaction à mettre en place afin d'opérer un sevrage en douceur. C'est une combinaison d'approches psychocorporelles, dont l'hypnose, et comportementales. Il faut trouver d'autres sources de bien-être. Le sport est un bon moyen pour évacuer les énergies négatives et de se faire du bien dans son corps.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et pour finir, auriez-vous des conseils à adresser aux personnes qui auraient des doutes ou qui se reconnaîtraient dans ces situations ?
Oui, ne restez pas seul avec ce trouble. C'est une maladie, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Même si cela laisse des empreintes, le cerveau est plastique et vous pouvez vous en sortir. L'addiction sexuelle isole, c'est dans la connexion et le lien que vous trouverez réparation et soutien. Retrouvez des activités à faire avec vos mains, sortez, allez voir des amis, faire du bénévolat ou des activités qui vous valorisent. Et je me tiens à votre disposition et offre un appel découverte gratuit à toutes celles et ceux qui souhaitent être accompagnés ou qui veulent se renseigner pour un ou une proche.
Merci Angéline Petit. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute psychocorporelle. Vous proposez des ateliers, des consultations et des cercles de parole mixtes pour des relations amoureuses, sexuelles, saines et épanouies. Pour vous contacter, il suffit d'appeler le 06 15 98 12 77. 06 15 98 12 77. Bonne journée à tous.
Merci, à bientôt.
La voix des jeunes face aux addictions. Une action jeunesse pour garder des bonnes ondes. Avec Info RC, cultivons des attitudes positives pour notre santé.
Une action soutenue par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, la MIDECA, mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives et l'éducation nationale.